Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. L'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10. Au nom de Jésus. Après le Shabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de côté et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, de ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent si peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus. » Celui qu'on a cloué sur la croix, il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie comme il l'avait dit. Venez, vous voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est revenu de la mort à la vie et il va maintenant vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais dit. Ce que je vous avais à vous dire. Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui, saisissèrent ses pieds et l'adorèrent. Jésus leur dit, « Alors, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Chers amis, savez-vous, dans l'histoire, il y avait de gros dossiers en matière de justice. Quelques affaires avaient peut-être bouleversé l'opinion publique, dans n'importe quel pays où il y avait des histoires vraiment qui a bousculé l'humanité. Peut-être il y a eu des histoires où l'opinion publique a été vraiment bouleversée pendant plusieurs décennies. Mais avec le temps, tout doucement ces histoires, les gens commencent à oublier ces affaires. La ferveur populaire sur les affaires s'effrite d'année en année, malgré les émotions fortes au tout début. Mais cette histoire, le dossier que je dis, dossier de la résurrection de Jésus, continue toujours à faire du bruit, même jusqu'en 2020. On a fait depuis Pilate, Hérode, tous les complots pour étouffer la vérité, car cela dérangeait jusqu'aux plus hautes sphères de la société de notre époque. Et malheureusement, même au sein de notre Église protestante, quand j'ai préparé ma prédication, j'ai toujours l'habitude d'écouter, bien sûr, comment les autres ont déjà prêché sur ce texte. Et en faisant cela, vous savez, on peut tomber sur de tout. Comme si on allait à la pêche, et une fois que le navire arrive à bord et qu'on trie les poissons, parfois on se dit, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi toutes ces choses qui n'ont même pas le visage d'un poisson? Il en est de même avec les prédications. Il y a ceux qui semblent, je dis bien ceux qui semblent, valider la résurrection de Jésus, mais de façon très sournoise, ils arrivent encore à détourner la vérité biblique en une vérité philosophique. Et ils osent même dire que ce n'est qu'une métaphore, la résurrection. Une de ces idées qui m'a vraiment choqué, un pasteur protestant, je le dis bien protestant, qui a dit qu'il ne faut pas confondre apparition de Jésus et vraie résurrection de Jésus. Il dit que ce n'était que des apparitions. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était vraiment Jésus? Vous imaginez comme réflexion. Et à la fin de son exposé, Je ne pouvais pas m'empêcher de dire, mais de qui se moque-t-on? C'est pas parce que certains ont une aisance de langage ou une rhétorique exceptionnelle qu'il faudrait tout avaler. Paul nous a déjà prévenus dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que le Jésus-Christ ressuscité. Et aussi, s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile, et notre foi aussi inutile. On ne serait pas ici aujourd'hui. L'Église n'existerait pas si le Christ n'était pas réellement ressuscité. Mais tout compte fait, cette réaction n'est pas si étonnante de voir encore les ennemis de la résurrection. Parce que déjà la résurrection de Jésus, savez-vous, la résurrection ne s'adressait pas à tout le monde. Eh oui, si vous lisez bien les évangiles, et en lisant le texte que nous avons sous nos yeux, la version français courant semble vraiment mettre une distinction entre les femmes qui étaient venues au tombeau et les soldats de l'autre côté qui étaient pourtant aussi témoins. Les deux étaient témoins, les femmes et les soldats. Il ne faut pas l'oublier aussi que les soldats étaient témoins de cette résurrection. Mais ce qui est étonnant dans la façon dont l'auteur raconte l'histoire, c'est que ici, à en juger la parole de l'ange, la mise en distinction est assez significative. Relisons les versets 4 et 5. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, vous, en s'adressant aux femmes, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Peut-être ça ne vous dit rien. Mais sur le plan narratif, parlant cela, l'auteur place le marqueur sur le contraste entre les gardes et les femmes. Vous, comme je l'ai dit, les deux avaient tous peur, les femmes et les gardiens. Mais les anges ne s'adressaient pas aux gardes, mais aux femmes en disant « Vous, n'ayez pas peur ». On peut sentir déjà dans cette parole des anges que comme s'ils disaient « Vous, mais pas eux ». Vous, ils ne sont pas à la même enseigne. Et un peu plus bas dans le texte, au verset 8, l'auteur reprend encore la thématique de la peur, mais cette fois-ci, il marque encore une différence entre les femmes et les soldats. Il rajoute que cette crainte était mélangée d'une grande joie, une sorte de surexcitation, comme si elle n'en revenait pas. Mais en même temps, la joie les submergeait. Tandis que pour les soldats, ils n'ont que la peur au ventre. Le traumatisme. Regardez deux sortes de peurs. La peur des femmes, mais en mélangée de joie, et la peur des soldats qui reste juste comme un traumatisme. Et pour les disciples, une joie explosive dépassant tout entendement. Alors, que cela veut dire pour nous? Théologiquement parlant, lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, les systématiciens ou les dogmaticiens parlent que c'est à partir de cet événement de la résurrection que le temps de la fin a commencé. Le temps de la fin a commencé. Et quand on parle le temps de la fin, cela sous-entend le temps de jugement, n'est-ce pas? Mais ici, le sens du mot jugement est comprise comme une mise en séparation annoncée par les évangiles. Séparer la mauvaise herbe du blé, séparer les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Rappelez-vous les paraboles de Jésus. Voilà le mot jugement dans l'évangile. Et c'est pour cette raison que l'histoire de la résurrection fait autant de bruit. Et que certains, même au sein de notre famille confessionnelle protestante, ont du mal avec cette idée d'une résurrection corporelle. Ils prêchent une résurrection que spirituelle. Mais nous confessons que Jésus est réellement ressuscité corporellement et bien sûr spirituellement. Et non uniquement que dans l'esprit. Alors, Jésus ne s'est pas apparu qu'aux siens. Et c'est ça qui est étonnant. La question qui se pose à nous aussi, à notre tour, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que toi tu fais partie de ceux qui ont du mal à croire à cette résurrection de Jésus? Ou dois-je reformuler ma question, fais-tu partie des siens? Fais-tu partie des disciples de Jésus ou fais-tu partie des ennemis de la résurrection? Si jamais oui, tu ne devrais pas avoir de problème. Jésus est toujours prêt à accepter et te reprendre. Et toujours vis-à-vis de ces femmes, une question m'a intrigué en préparant cette méditation. L'ange qui était là au tombeau, ça m'a vraiment interpellé. J'ai toujours lu ce texte, mais c'est la première fois que ça m'a titillé. Quelle était la mission de cet ange finalement? Dans le texte, il est écrit, il descendit du ciel, il roula la pierre, et ensuite il s'assoit dessus, comme un enfant qui s'amuse, qui joue. Hein? Vous imaginez l'image? Il était en train de pousser la pierre, et il attendait calmement que les femmes arrivent. Je ne sais pas pour vous, mes chers amis, mais ce qui est décrit, c'est magnifique. Le contraste entre la gravité de la mort et la légèreté de l'ange face au tombeau. Nous, les Africains, les Orientaux, on a souvent peur de passer devant les cimetières. Parfois, il y a des croyances même. Ah, il ne faut pas faire ceci, il faut tourner à gauche, à droite. Mais ici, l'ange, lui, il s'assoit dessus. Comme s'il disait, ça n'a plus d'importance. L'ange qui s'assied sur la pierre du tombeau, comme si c'était un gamin ou un jeune homme qui s'amuse dans un jardin, dans un parc. Or, l'instant est grave. Parce que les femmes qui étaient venues au tombeau avaient le cœur lourd de tristesse à cause de la mort de leur maître. Et ailleurs, dans les autres évangiles, il est dit qu'elles pleuraient intensément, car non seulement leur maître est mort, mais on a encore volé son corps. Alors, je vous repose la question, que faisait-il de cet ange de Dieu là? Vous allez peut-être me dire, mais il était là pour réveiller le Christ. Ce n'est pas écrit. C'est dans notre croyance. Il n'était pas là pour rendre la vie à Jésus, car il n'avait pas cette faculté-là. Il n'est pas Dieu. Seul Dieu qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Et dans le texte, l'auteur est bien clair. Regardez bien. Jésus n'était plus au tombeau au moment où l'ange a roulé la pierre. Il n'était plus là. Donc, dans le texte, l'auteur est bien clair. Il est dit, il s'est réveillé. Et donc, que fait-il cet ange alors? Quelle était sa mission? Tout d'abord, il leur montre que Jésus n'est plus là. C'était juste cela. Regardez, il n'est plus là. Ensuite, il annonce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Voilà la deuxième. Troisième mission, il les rappelle toutes les paroles que Jésus les avait enseignées, et ils ont dit, il vous donne rendez-vous à Galilée. Pourquoi à Galilée? C'est là que tout a commencé. La boucle est fermée. Tout recommence. La vie reprend son ordre. Est-ce que cela ne nous fait pas rappeler la scène de l'annonce de la nativité du Christ? Les anges qui sont venus vers les bergers, ils étaient aussi tout effrayés. Les anges les rassuraient et ensuite les annonçaient que la bonne nouvelle, que le Fils de Dieu est parmi eux, mais à Bethléem, et annonçaient dans quel village il était. Il y a une similitude incroyable. Le lien est fait entre la naissance et la résurrection. Les anges du Seigneur, finalement, ne sont que des messagers ou des témoins de l'œuvre de Dieu. Donc, pour nous, les vrais témoins de la résurrection de Jésus ne sont pas là pour faire de l'ombre à Jésus.
un vrai témoin ne fait pas de l'ombre à son maître. Au contraire, il devrait non seulement annoncer que le Christ est réellement ressuscité, mais il a aussi confirmé les prescriptions de ces saintes écritures. À notre tour aussi, aujourd'hui, ne tombons pas dans le piège à essayer de convaincre les gens dans une logique, utilisant les raisonnements philosophiques, ou que sais-je. Je ne suis pas appelé pour vous convaincre que le Christ est ressuscité. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous annoncer qu'il est vivant. C'est tout. Nous sommes que des témoins. On l'a vu et on vous le dit. Vous le croyez, c'est bien. Vous ne le croyez pas, c'est votre problème. C'est tout simplement. C'est là le message. C'est là la mission du témoin. Donc ne nous fatiguons pas à convaincre les gens en utilisant de toutes les sagesses du monde. Ce n'est pas le but. Comme l'ange du Seigneur qui était là au tombeau. Nous ne sommes pas appelés à convaincre les gens, mais nous sommes appelés à témoigner de notre foi de façon inébranlable. Regardez ces femmes, quand elles ont vu, elles ont entendu, et sont parties pour annoncer aux disciples, mais même les disciples ne les croyaient pas. Mais ce qu'elles faisaient, elles disent, on l'a vu, c'est tout. Pas plus d'explications que cela. Elles ont dit, le maître est vivant. C'est tout. Incroyable, non? Et les autres se sont acharnés sur elles. Comment est-ce possible? Et les femmes ne faisaient que répéter la même chose. On l'a vu, c'est tout. Et il est vivant. Et je tiens à insister sur cette dimension-là. Ça pourrait être si simple. Ça pourrait être quelque chose de dire, mais ce n'est que cela la mission de l'Église? Oui, chers amis. Chaque année, nous le ferons, si Dieu nous donne encore vie, pour annoncer que Christ est vivant. Ne nous fatiguons pas à entrer dans les débats stériles. Essayez de prouver, par nos connaissances et nos compétences intellectuelles, que Jésus est réellement ressuscité. Le Seigneur ne nous demande pas d'aller dans ce sens-là. Il a juste besoin d'un témoin qu'il a reçu et qu'il a compris. Et si vous avez regardé le thème, j'ai fait exprès de mettre « témoin sans S », c'est-à-dire que chaque personne doit être conscient qu'il a vu le Christ. Le Seigneur, alors, te demande d'être son témoin pour annoncer qu'il est ressuscité. Alors, ce que je vous demande aujourd'hui à tous et à toutes, cherchez tous les moyens pour annoncer que le Christ est réellement ressuscité d'entre les morts. Amen.
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort.
Je vous invite alors maintenant, avec moi, après ce message, de proclamer notre confession de foi. Proclamons notre confession de foi ensemble, et vous l'avez déjà reçu, je crois, à l'avance, le symbole de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux. Il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est sauveur et qui donne la vie. Du Père, il tient son origine. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité. Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Et maintenant, nous allons nous préparer pour la Sainte Cène. Et avant cela, j'aimerais que vous soyez prêts avec les verres et le pain pour la Sainte Cène. Et imaginez toujours comme si vous étiez au temple pour écouter et suivre le culte comme on l'a toujours fait.
Je crois que c'est un problème de connexion.
C'est bizarre parce que le chant, j'ai vu.
C'est coupé.
Oui, depuis longtemps.